Alors bonjour à toutes et à tous. Un bonjour ou une invitation vraiment chaleureuse à ceux qui sont là peut-être pour la première fois ou qui sont arrivés peut-être il y a deux dimanches ou trois dimanches. Vous pouvez aussi vous inscrire au bout là-bas, il y a une place pour vous. Alors dans le programme, toute l'année des messages, les anciens ont prévu un enseignement particulier. Mais de temps en temps, le dimanche, ils ont prévu un message libre. Et ce message libre intervient un peu comme un interlude dans ce programme d'enseignement. Et c'est le cas ce matin, c'est un thème libre. Alors, avons-nous dans notre Église des coutumes? D'autres diront des habitudes. Et si oui, pourquoi les pratiquons-nous? Alors peut-être que quelques-uns connaissent l'histoire que je vais vous raconter maintenant. C'est l'histoire d'un gigot dont on coupe les extrémités. Alors il y avait dans une famille donc qui avait donc comme coutume pour Pâques de manger un gigot, et donc dans la préparation de ce gigot au moment où juste avant de le mettre à la cuisson, on coupait les deux extrémités de ce gigot. Alors le mari, qui était quand même interloqué, s'est un jour enfin décidé à demander à son épouse « Mais pourquoi est-ce que tu coupes, avant de mettre le gigot dans le four, tu coupes les deux extrémités ?» C'est quand même de la viande qu'on jette. Alors l'épouse de répondre, eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est comme ça qu'il faut faire. Et l'épouse de rétorquer, eh bien non, cette année, on ne fera pas comme ça. On va manger, on l'a acheté entier, on va le manger entier. Moi, j'en veux pour mon argent. Et l'épouse dit non, on va continuer de faire comme ça, parce qu'il faut couper le gigot comme ça. Bon, alors l'époux il dit, mais alors écoute, va au moins me donner une bonne raison pour que tu coupes ça, pour que tu coupes ces deux extrémités. Et elle dit, non, je ne le sais pas, je sais que c'est comme ça, mais c'est ma propre mère qui me l'a enseigné. Eh bien, alors appelle ta mère. Donc l'épouse appelle sa mère, lui pose la question, maman, pourquoi on coupe les deux extrémités gigot? Ah ben, il dit, ma fille, ça c'est une bonne question, hein. C'est drôle que je ne me la suis même jamais posée moi-même. Et c'est ta grand-mère qui m'a dit de faire comme ça. Alors l'époux il dit, appelle ta grand-mère. Donc la femme appelle sa grand-mère. Et sa grand-mère lui répond, mais ma chérie, tu n'as pas besoin de faire ça. Notre four était tellement petit qu'on coupait les deux extrémités pour pouvoir le rentrer dedans. Voilà. Alors, une illustration, ainsi certaines de nos traditions mériteraient sans doute d'être expliquées pour finir par en connaître quand même le pourquoi et le comment. Alors, on vient de l'évoquer à l'instant, hein, l'Église vient de fêter ses 100 ans et à fréquence d'une fois par semaine. Il y a 52 semaines dans l'année. Cela donc fait 5200 fois que le pain et le vin sont partagés dans notre Église. On a dit coutume? Alors, afin de ne pas passer pour de simples pratiquants d'une routine, ou à l'inverse, de passer pour des personnes qui vivent cette pratique dans une certaine superstition, j'ai choisi pour notre partage de ce matin de parler du repas du Seigneur. Et nous aborderons d'où vient le repas du Seigneur, quel sens au repas du Seigneur, la pratique dans l'Église, sa fréquence, qui est concerné par le repas du Seigneur, et enfin, perspective du repas du Seigneur. Alors avant tout, quelques Remarque générale sur deux pratiques que nous appelons des ordonnances, c'est-à-dire baptême et Sainte-Cène. On entend souvent parler de sacrements, notamment au sein des églises catholiques et des églises orthodoxes. Ce terme de sacrement est issu du mot latin sacramentum, qui fait référence à l'origine à un serment, à un engagement. Mais de nos jours, dans le domaine religieux au sens large, ce terme de sacrement a pris un sens nouveau, celui de cérémonie sacrée, qui aurait une vertu particulière et qui, entre autres, procurerait une action de sanctification. Alors chacun comprendra donc la réticence de nos églises à employer ce terme. Et c'est pour des raisons évidentes de rectification basée sur la parole de Dieu, pour éviter la méprise ou tout simplement éviter la confusion. Ainsi, nos communautés évangéliques lui préfèrent le terme d'ordonnance. Cette ordonnance désigne plusieurs particularités, ce mot d'ordonnance. Ainsi, dans le domaine religieux, une ordonnance désigne les lois et les prescriptions de Dieu. Et plus particulièrement dans le domaine évangélique qui est le nôtre, une ordonnance est un rite symbolique. Ainsi, selon ses propres paroles, à toutes celles et ceux qui croient en lui, à ses disciples, le Seigneur a prescrit, a ordonné le baptême et la participation au repas de la scène. Il est à noter que ces deux ordonnances sont instituées par le Seigneur lui-même, et juste avant un événement majeur. L'ordonnance du baptême, juste avant son départ au ciel, c'est ce que nous voyons dans l'évangile de Marc au chapitre 16, et l'ordonnance de la Sainte Cène, la veille de sa mort, que l'on trouve dans les récits de Matthieu et de Luc. Ces deux ordonnances font toute référence à sa mort salvatrice, sans qu'aucune d'elles ne procure de vertu particulière. Alors pour résumer, le baptême et la Sainte Cène, n'ayant aucun pouvoir de sanctification en eux-mêmes, aucune efficacité spirituelle mystique selon la parole de Dieu, ne peuvent ni ne sauraient être des sacrements au sens actuel qui est donné à ce terme. Mais ces deux pratiques sont issues de la demande du Seigneur à ses disciples, savoir se faire baptiser et prendre le repas du Seigneur. Pour ce qui est du repas du Seigneur qui nous occupe ce matin, le Seigneur utilise un verbe à l'impératif. Notamment dans Luc, il dit « Faites ceci », alors en mémoire de moi, mais « Faites ceci ». Pourquoi ces ordonnances ont été données par le Seigneur et pourquoi les maintient-on? Baptême et Sainte-Cène sont institués, entre autres, pour identifier ou distinguer les disciples du Seigneur des autres hommes ou des autres femmes. Pour ce qui est du repas du Seigneur, cette ordonnance « Faites ceci en mémoire de moi », Paul, rappelant les paroles du Seigneur, dit « Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ». Voilà pourquoi on les maintient. Pour notre sujet de ce matin, nous trouvons quatre textes de base qui évoquent l'institution de la scène. Trois dans les évangiles, Matthieu 26, Marc 14, Luc 22. Et un dans les épîtres, celle de 1 Corinthiens 11, où Paul ajoute au rappel de cette institution des recommandations. Je vous propose de lire le texte de Luc 22, 14 à 20. C'est Jésus qui parle. L'heure étant venue, il est question de Jésus. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Les textes parallèles se trouvent donc dans Matthieu et dans Marc. Alors, d'où vient le repas du Seigneur? Alors, tout d'abord et rapidement, un petit peu d'histoire. Le livre de l'Exode, au chapitre 12, raconte l'institution de la Pâque et nous rapporte la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, exception faite des premiers-nés mâles israélites, que Dieu a épargné quand son ange a vu le sang sur les linteaux. Ainsi, la Pâque, qui impliquait le sacrifice d'un agneau dans chaque famille, est la fête qui commémore la délivrance miraculeuse de l'esclavage des Égyptiens accordée aux Israélites. Il s'agissait donc d'un repas qui célébrait une puissante délivrance de Dieu. Parlant de ce repas, au verset 15 de Luc, Jésus leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » Et il est cependant à noter que dans les paroles mêmes de Jésus, il n'est fait aucune mention d'un agneau. Alors même que le jour où se déroule la scène décrite est celui-là même qui, dans la Pâque juive, est le premier jour dit des pains sans levain, c'est-à-dire le jour où l'on sacrifiait l'agneau pascal. Et pourtant, aucune référence à cet agneau par le Seigneur. C'est sans doute significatif de la volonté de Jésus à se présenter lui-même comme l'agneau sacrificiel, mettant ainsi fin aux images qu'étaient les agneaux sacrifiés et qui préfiguraient ce sacrifice. Il se présente comme étant lui-même l'agneau immolé. Alors, quel sens au repas du Seigneur ? Dans le livre donc du Deutéronome au chapitre 16 qui traite de la Pâque, on remarque que ce repas pascal était pris en l'honneur de l'Éternel, c'est noté, et que le peuple autour de l'Éternel devait par ce repas se souvenir du jour de la délivrance du jour égyptien. C'était donc un repas fait pour célébrer l'œuvre de Dieu. Alors le symbolisme de la Sainte Cène. Le mot Sainte Cène signifie repas et désigne celui du soir, du souper, ce que l'on voit dans Deutéronome 16. Et les termes utilisés pour désigner ce repas dans le Nouveau Testament sont le repas du Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, ou la fraction du pain dans le livre des Actes. Il s'agit d'un nouveau rituel qui proclame la mort de Christ. Parlant du repas du Seigneur, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, 26, dit « Quand vous rompez le pain, vous annoncez la mort du Seigneur. » À l'origine, dans le texte, le terme grec donne plusieurs précisions ou d'autres précisions. Ainsi, ce mot signifie bien sûr « annoncer », mais plus largement « déclarer, promulguer, faire connaître, proclamer la mort du Seigneur ». Et dans notre texte, au verset 26, Jésus introduit un repas au milieu d'un repas pascal. Il prend la Pâque, c'est-à-dire qu'alors qu'il est en train de prendre le repas pascal, Jésus introduit un nouveau repas, abolissant ou remplaçant ainsi l'ancien repas de Pâques devenu par lui, Christ, obsolète. Alors, obsolète signifie périmé, dépassé. Et nous avons cette très belle image donnée par le pasteur Charles Spurgeon qui dit, je le cite, « La Pâque juive fut instaurée afin de se fondre dans le repas du Seigneur comme les étoiles du matin disparaissent dans la lumière du soleil. » Fin de citation. Ainsi pour nous, nous n'avons pas ou n'avons plus la nécessité de partager la Pâque juive qui est remplacée par le repas du Seigneur. En effet, ce repas originel de Pâques était l'image d'une réalité qui intervient par Jésus-Christ. Réalité comme véritable agneau sacrifié. Alors une remarque quant au verset qui dit « Ceci est mon corps, mangez-en tous » et qui, parlant du vin, dit « Ceci est mon sang, buvez-en tous ». Selon la doctrine catholique, le pain et le vin, au moment où ils sont mangés et au moment où ils sont bus, sont transsubstanciés. C'est-à-dire, donc, selon la doctrine catholique, qu'ils gardent l'apparence du pain et du vin, mais qu'ils deviennent en réalité le corps et le sang de Christ. Et donc, pour les catholiques, lorsqu'ils mangent le pain et qu'ils mangent corporellement le corps de Christ. Quand le Seigneur institue ce repas pour commémorer sa mort, il est vivant devant eux et son sang coule encore dans ses veines. Ce qui indique et implique que le pain et le vin dont il parle, qu'ils sont en train de se partager, ne sont que des symboles qui matérialisent ou représentent ou sont les images de son corps et de son sang. Alors on dit parfois, certainement peut-être l'avez-vous dit vous-même, « J'ai dévoré tel livre. » Vous avez mangé les pages ? Ou encore « Je bois les paroles de telle personne. » C'est une manière imagée pour expliquer combien ce livre ou cette personne dont on parle, ben, peut-être nous font du bien. Quand Jésus dit à propos du pain et du vin, « Ceci est mon corps, mangez-en tous, et ceci est mon sang, buvez-en tous », il parle de manière imagée, voulant signifier qu'il est celui par lequel le chrétien trouve sa force, sa nourriture spirituelle. Le pain et le vin sont donc des symboles de représentation de son corps offert pour nous, de son sang versé pour nous. Le repas de Pâques traditionnel juive était un repas complet. Entrée, plat, dessert, hein, on pourrait dire. Alors que le repas du Seigneur est juste du pain et une coupe de vin. C'est simple comme repas, mais il suffit à communiquer le sens de l'évangile du salut. Jésus a institué ce repas dans le but de nous rappeler de sa mort. Il n'a pas institué de mémorial pour nous rappeler le jour de sa naissance, alors qu'elle fut miraculeuse. Pas de mémorial non plus pour sa vie, alors qu'elle fut sainte. Mais simplement le mémorial de sa mort. Non pas pour nous souvenir de l'anniversaire de sa mort, comme les hommes peuvent le faire pour leurs défunts, mais pour nous rappeler du sens de sa mort pour nous. C'est une mort qui compte pour nous. La condamnation à mort qui était la nôtre, le Père l'a fait retomber sur Christ pour nous sauver de cette condamnation éternelle. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 5, verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. La scène instituée avant la croix a interprété la mort de Christ avant sa mort réelle. De la même manière qu'un paysage peint sur un tableau interprète la réalité du paysage, ainsi le repas du Seigneur interprète la mort du Seigneur. Alors nous en venons au repas du Seigneur, sa pratique. Il semble que nous trouvions dans les évangiles et les épîtres l'insistance du Seigneur et des apôtres à nous voir prioriser ou apporter une attention particulière, c'est le plus important, au sens des éléments ainsi qu'au fait d'être reconnaissant. Et sans que nous n'ayons d'ailleurs d'indication précise quant à la fréquence de ce repas. Au moment du partage du pain et du vin, il est important de toujours garder à l'esprit ce que le Seigneur a voulu préciser par ses symboles, de manière à ce que le véritable sens ne soit pas amoindri. C'est-à-dire que dans ce partage du pain et du vin, le disciple du Seigneur doit entrevoir ce qu'il en a exactement été de ses souffrances et de sa mort, ce qu'il en est exactement de la portée de son sacrifice, savoir son corps brisé, son sang versé pour la rédemption du pécheur. Nous lisons dans 1 Corinthiens 11, 24, « Après avoir rendu grâce, parlant du Seigneur, après avoir rendu grâce. » Nous trouvons là l'exemple du Seigneur à formuler des prières de reconnaissance. Et les prières que l'on fait avant la distribution du pain et du vin n'ont absolument pas vocation à bénir le pain et le vin, mais à bénir Dieu, à le remercier pour ce que représente le pain et le vin. Alors le repas du Seigneur, sa fréquence. Il semble, selon le livre des Actes, que les premiers chrétiens prenaient la scène chaque fois qu'ils se réunissaient. Et que tout au début de l'Église, ils se réunissaient chaque jour. Ainsi, il existe aujourd'hui des fréquences variables au sein de nos Églises. Et dans notre famille de l'Église, cela se fait chaque dimanche. Sans doute pouvons-nous avancer au moins deux raisons à cette pratique. La première, le fait que nous nous retrouvions tous ensemble le dimanche au culte correspond bien à la notion d'acte 2, ils étaient tous ensemble assidus. Et la seconde serait que le dimanche correspond à quelque chose près, bien sûr, à la notion chaque fois que vous vous réunissez, puisque cette journée du dimanche est, on pourrait dire, la journée officielle, régulière de l'Église. Alors, quelques remarques sur le pain et le vin. Le repas, dans toutes les cultures, il y a plusieurs cultures d'origine ici, hein, le repas dans toutes les cultures exprime un principe de communion. Et ce repas de la Sainte Cène est également le symbole de communion entre les chrétiens. Et comme le pain et le vin représentent le corps et le sang de Christ, cela implique que c'est donc seulement grâce à Christ que nous sommes en communion. Ainsi, en prenant semaine après semaine ce repas, nous montrons par le partage de ces éléments que nous vivons de Christ et pour Christ. Alors le pain, un même pain, c'est-à-dire une même nourriture partagée entre nous, symbole d'un corps livré pour tous et pour chacun. Le pain, symbole d'un corps livré à la mort et à ses bourreaux, Ésaïe parle d'un corps qui a subi les meurtrissures, les blessures par lesquelles nous sommes sauvés. La coupe. La tradition juive impose que 4 coupes soient bues lors du repas de Pâques. Et dans notre texte de Luc, on remarque que le Seigneur fait référence à 2 coupes. Il apparaît donc que cette coupe partagée par Jésus après le repas correspond à la 3e coupe du repas pascal. Et la tradition juive donne à cette 3e coupe du repas pascal la triple appellation de coupe de bénédiction, ou coupe de salut, ou coupe de rédemption. Et ce qui est admirable concernant cette coupe du Seigneur, qu'il nous demande de partager, et celle qui représente donc son sang versé, c'est que Paul, dans 1 Corinthiens 10, en parle comme la coupe de bénédiction. Que Jésus, dans Luc 26, en parle comme la coupe de la nouvelle alliance. Et qu'il en parle encore dans Matthieu comme la coupe de rémission des péchés. Ainsi le Seigneur montre à ses disciples que tout ce que préfigurait le repas pascal, il est en train de l'accomplir, se présentant lui-même comme l'agneau immolé, étant pour eux, pour nous, salut, rédemption, bénédiction. Ainsi est inaugurée par le sang de Christ une nouvelle alliance, celle qui unit chaque racheté à son sauveur. Alors maintenant, qui doit participer à ce repas? Le Seigneur Jésus donne dans les textes de base des indications à ses disciples sur le lieu où il veut que ce repas de Pâques soit partagé, mais surtout avec qui il veut le partager, avec ses disciples. Alors que traditionnellement, c'était un repas pris en famille, le Seigneur, au moment où il institue son repas, n'invite que ses disciples à y participer. Et c'est à eux qu'il dit: mangez et buvez. Ainsi ce repas identifie ceux qui y prennent part, comme ses disciples, comme sa famille, comme gens de la maison de Dieu. Évangile de Marc, chapitre 3, « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère, ma famille. » Ainsi, la table du Seigneur n'est pas une table où la foule, où les personnes présentes non identifiées sont invitées à participer. Dans le temps, lorsqu'un chrétien se déplaçait dans une autre église de manière quasi systématique, il était porté d'une lettre qu'on appelait une lettre de recommandation et qui précisait cette lettre donc, que ce dernier était un disciple du Seigneur, qu'il avait témoigné de sa foi en passant par les eaux du baptême. Ainsi, ce chrétien était identifié comme disciple du Seigneur et était accueilli à sa table pour ce repas. Et ce fut mon cas alors que je faisais mon service militaire en Allemagne, et que je me suis rendu dans l'église de la Bonne Nouvelle à Strasbourg, j'étais effectivement porteur d'une lettre de recommandation et que j'ai remise au début du culte, avant le culte, aux anciens de cette église. Alors aujourd'hui, cette pratique de la lettre de recommandation a quelque peu disparu, pas totalement, mais quelque peu quand même. Et c'est pour cela que nous précisons régulièrement, au moment de partager le pain et le vin, à qui est destiné ce repas. Et cette pratique n'est pas discrimination. cette patrie est identification. Et elle se justifie par une logique implacable que l'on ne saurait annoncer l'amour du Seigneur, la publier en prenant ces éléments sans prêter aucunement foi à ce que ce repas représente. Prendre ce repas sans être en communion avec le Seigneur, sans avoir reçu, accepté son salut, n'aurait aucune logique. La prise de la scène n'aurait non seulement aucun sens, mais vis-à-vis de Dieu, nous prendrions alors ce repas de manière indigne. Paul nous rappelle, donc à nous, ses enfants, les enfants du Seigneur, que nous avons à prendre ce repas, mais qui doit être pris également de manière digne, être en bonne communion, en bonne relation avec ses frères et sœurs. Et que si tel n'était pas le cas, il leur faudrait, avant de participer, régler la situation. Et l'auteur inspiré ajoute cette recommandation formelle, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ce repas est donc le repas qui représente, d'une part, la réalité d'une communion avec le Seigneur, et d'autre part, la réalité d'une communion entre disciples par notre foi commune en son œuvre salutaire à la croix. Ensuite, au verset 17 de Luc 22, il nous est précisé la participation de tous les disciples. Mangez-en tous, buvez-en tous. La participation personnelle de chaque croyant au pain et au vin n'est pas pour le disciple une option, mais un acte d'obéissance. Faites ceci. Au verset 19. Alors pour conclure, j'ai gardé le dernier aspect que nous indique la scène du Seigneur. Elle est l'anticipation d'un repas futur. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Cela signifie qu'il y aura un temps dans le ciel où nous mangerons ce repas avec le Seigneur. Je ne sais pas si on se rend compte. Tous les rachetés de tous les temps, et comme nous l'évoquions dimanche dernier, toutes celles et ceux qui ont démarré cette Église il y a 100 ans, tous ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous succéderont aussi, tous ensemble, avec lui, pour le partage de ce repas en sa présence. La Sainte Cène est aussi la préfiguration de ce repas que nous prendrons avec le Seigneur et induit non pas un moment de tristesse, mais de joie profonde. Pour terminer, un dernier texte dans Ésaïe 25. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Et que l'on puisse vraiment le faire chaque fois que nous partageons le pain et le vin. Amen. Bon dimanche à chacun.